Je vous adresse donc à tous et à toutes nos salutations en Jésus-Christ de la part de mon épouse qui est là ce matin, Ruth et notre fille, Séphora accompagnée de son mari Wilfried Tamenion, eux qui se sont mariés donc en juin dernier à Paris. Raison pour laquelle nous sommes venus cette année aussi pour un séjour de 3 mois. En France, un séjour qui va se prolonger donc, vu que la situation en Côte d'Ivoire ne s'améliore pas du tout, il n'y a toujours ni police ni gendarmerie. Nous remercions ceux qui prient pour le pays, pour l'Église là-bas. Nous avons donc reporté d'un mois notre départ jusqu'à fin septembre, et du même coup, donc, nous prolongeons aussi notre séjour ici à Grenoble. Merci encore à l'Assemblée pour son soutien fidèle et pour ses prières. Fin juin, je vous ai donné un message sur la foi d'Abraham, le pèlerin croyant qui vivait sous les tentes et de lieu en lieu avec un autel pour adorer le vrai Dieu. Je m'étais arrêté avec vous dans le livre de la Genèse au chapitre 22 et ce matin je voudrais donc poursuivre l'exemple que Abraham nous a laissé. J'avais lu le verset 9 et ce matin je vais lire les 14 premiers versets de ce chapitre 22 du livre de la Genèse, qui nous parle donc de la foi d'Abraham qui a atteint son sommet, on peut dire, lorsqu'il a accepté d'offrir à Dieu son fils unique bien-aimé Isaac, parce qu'il avait foi, une ferme foi en la résurrection. Donc j'ai lu dans Genèse 22 les 14 premiers versets. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit, « Mon père, il répondit, me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. La foi d'Abraham, on l'a vu donc fin juin, comme j'ai dit, est exemplaire pour nous aussi encore les croyants, nous qui avons le Saint-Esprit en nous depuis notre baptême dans le Saint-Esprit, le jour de notre nouvelle naissance. Abraham n'avait pas en lui en permanence l'Esprit de Dieu et pourtant il demeure encore pour nous chrétiens un exemple de foi. Et nous voyons ici comment il a exprimé sa foi, comment il l'a confirmée en acceptant d'offrir à Dieu donc son Fils unique. Il vivait toujours sous ses tentes et toujours près de son autel pour adorer le vrai Dieu, sacrifiant sur l'autel, et cette fois-ci, Dieu lui demande de sacrifier son Fils unique, bien-aimé, le Fils de la promesse, Isaac. Nous savons que c'est l'épreuve qui fortifie notre foi, et ici, Dieu a placé Abraham devant la plus grande épreuve qu'un homme puisse rencontrer dans sa vie, choisir entre Dieu et son Fils unique. Quand Dieu éprouve une personne, c'est une preuve de la confiance qu'il lui accorde. Car on peut penser que de même que Dieu ne permet pas à Satan d'éprouver un homme au-delà de ses forces spirituelles, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 10, 13, on peut aussi penser que Dieu ne va pas non plus éprouver une personne au-delà de sa force. Donc, en accordant une telle épreuve à Abraham, Dieu savait qu'il pouvait lui faire confiance. Cette épreuve aussi nous enseigne à tous que nous devons nous attacher au donateur et non pas au don reçu. On emploie souvent cette formule concernant les dons spirituels, un enseignement qui a divisé pendant tout le XXe siècle toutes les églises, on peut dire, du monde entier, où l'on rappelle toujours aux chrétiens qu'on ne peut pas s'attacher à un don spirituel quel qu'il soit, mais que nous devons nous attacher au donateur lui-même, à Dieu. S'appuyer d'abord sur Dieu, comme Abraham l'a fait. Dieu lui a donné Isaac. Dieu lui demande maintenant de lui rendre Isaac, bien qu'il lui ait promis une grande postérité bénie par cet enfant. Mais Abraham, qui aurait pu être en danger de s'appuyer sur son fils, le fils de la promesse, son héritier, a regardé plutôt au donateur et non pas au don qu'il avait reçu de Dieu, son fils, malgré son âge avancé, à sa femme et à lui-même. Dieu vraiment avait promis à Abraham une postérité en Isaac. Maintenant, si Dieu lui retire Isaac, Abraham pense que Dieu devra le lui restituer pour que la postérité promise en Isaac soit vraiment réalisée. Dieu voulait que la foi d'Abraham soit mise à l'épreuve et en lumière pour qu'on sache qu'Abraham voyait en Dieu celui qui pouvait lui donner une postérité, même après la mort d'Isaac. Donc Abraham croyait réellement en la résurrection. Il pensait vraiment que des cendres d'Isaac offertes en holocauste, Dieu pourrait encore lui donner une descendance par ce fils promis. Et en fait, c'est ce qui arriva, car Abraham retrouva son fils, comme la Bible dit, par une sorte de résurrection. Parce que si Abraham n'avait pas cru en la résurrection de son fils, qu'il avait déjà eu par miracle, vu l'état de santé de Sarah, il n'aurait jamais pu non plus vouloir le sacrifier à Dieu. On a dans Hébreux 11, versets 17 et 19, je vais les lire, cet élément de réponse dans Hébreux 11, versets 17 à 19, qui nous dit, en résumé, « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, « En Isaac sera nommée pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. Isaac a été restitué à son père, Abraham, et cela préfigure donc la résurrection de Jésus-Christ, qui lui aussi, on l'a vu, a été ressuscité le troisième jour et élevé vers son père. On voit donc ici qu'Abraham, le père des croyants, héros de la foi, selon Hébreux 11, plaçait toujours sa confiance en Dieu, quoi que celui-ci puisse lui demander. Et après la mort d'Isaac encore, après la naissance d'Isaac, ce n'est pas sur Isaac lui-même qu'Abraham comptait pour l'accomplissement de la prophétie annonçant une grande postérité, mais toujours sur Dieu lui-même, la parole de Dieu immuable, incomparable, toute puissante, passe avant toute autre considération et raisonnement ou excuse qu'on peut avancer pour se détourner de ce que Dieu nous demande. Abraham croyait réellement en la résurrection. C'est pourquoi il a dit d'ailleurs à ses deux serviteurs, au verset 5, donc Genèse 22, verset 5, à la fin, « Nous reviendrons auprès de vous. » Il leur dit « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » La foi d'Abraham était vraiment centrée, orientée, fixée sur le Dieu Tout-Puissant, celui qui ressuscite même les morts. Car sans la foi en la résurrection, Abraham n'aurait jamais pu accepter d'offrir à Dieu son fils unique. Ne serait-ce que par égard pour sa femme Sarah, qui elle aussi l'avait eue par un si grand miracle. Lisant ce petit passage, les 14 premiers versets de Genèse 22, je ne peux pas éviter de vous rappeler encore les similitudes qu'il y a entre ce sacrifice d'Isaac et celui de Jésus-Christ lui-même. Il y a au moins 7 ressemblances dans ce petit passage. Premièrement, Abraham donc figure Dieu, on le sait, qui offrit son fils unique pour notre salut. On l'a lu tout à l'heure encore, juste avant la Sainte Cène. Deuxièmement, Isaac, qui s'est laissé lier sur l'autel, avait 17 ans, ce n'était pas un gamin ou un enfant, il avait 17 ans, et il préfigure donc Jésus, qui lui aussi s'est laissé crucifier. Troisièmement, le mot Morija, verset 2, est à la fois Sion, où l'on offrait à Dieu des sacrifices, sur le grand autel des holocaustes dans le parvis du temple, et en même temps le mont Golgotha, où on sait la croix de Jésus a été dressée. Quatrièmement, les deux serviteurs préfigurent les deux brigands qui étaient de chaque côté de la croix de Jésus. Cinquièmement, les 3 jours de marche, verset 4, représentent le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Les 3 jours de marche durant lesquels Abraham pensait à la mort d'Isaac, préfigure donc les 3 jours que Jésus a passés dans la mort. Sixièmement, le bois, verset 6, qu'Isaac a porté sur ses épaules, bien sûr, nous rappelle la croix que Jésus a portée sur ses épaules. Et enfin, septièmement, le mouton qui a remplacé Isaac, au verset 13, préfigure la résurrection de Jésus 3 jours après sa mort. Je voudrais maintenant souligner les 3 aspects de ce sacrifice d'Isaac. Nous devons comprendre ce qui s'est passé, ça c'est le côté historique qui concerne Isaac, qui devait être offert en sacrifice. Ce que représente aussi ce sacrifice, ça c'est le côté symbolique, l'agneau, qui est un symbole de l'agneau de Dieu. Et maintenant, ce qu'annonce ce sacrifice, ce qu'il annonçait près de 2000 ans plus tard, donc le côté prophétique concernant Jésus-Christ, le véritable agneau pour notre salut. Donc l'aspect historique, le fait établi, concerne Isaac. 25 ans après que Dieu ait promis une postérité nombreuse à Abraham, Isaac naquit miraculeusement d'une mère stérile et âgée de 90 ans, Sarah. Et c'est là où se trouve aujourd'hui Jérusalem qu'Abraham accepta d'offrir à Dieu son fils unique, celui qu'il aimait, et celui qui devait lui donner surtout une nombreuse postérité bénie. celle par laquelle toutes les nations de la terre seraient bénies par son descendant Jésus-Christ. Ça, c'est donc l'aspect historique qui concerne Isaac, l'aspect symbolique qui concerne le mouton. En tant que croyants, nous sommes tous fils d'Abraham. La justice de Dieu exige qu'un sacrifice vivant soit offert pour le pardon de nos péchés, puisque le salaire du péché, c'est la mort, et selon la loi du talion, vie pour vie, il faut qu'un sacrifice vivant, sanglant, soit offert à Dieu en échange de notre vie pour que la mort nous soit épargnée. Nous sommes graciés par Dieu en Jésus-Christ, qui prit notre place à la croix. Et Hébreux 10, les quatre premiers versets du chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, nous dit bien qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève le péché. En effet, la valeur d'un animal n'est nullement comparable à celle d'un homme. C'était prophétiquement, symboliquement, que Dieu demandait, depuis Abel, le fils d'Adam, aux hommes pécheurs de lui offrir des sacrifices vivants. Dieu n'a jamais accepté de sacrifice humain, c'est pourquoi au dernier moment, il a arrêté la main d'Abraham, saisissant le couteau pour égorger son fils. Il est aussi à remarquer que seules les cornes du mouton étaient retenues dans le buisson, verset 13. Il s'agissait bien d'un mouton sans tache, sans défaut, parfait, comme plus tard la loi de Moïse l'exigera. Il n'avait aucun défaut corporel, de même que Jésus, on le sait, était sans péché. Ce mouton sans défaut est donc une préfiguration d'un sacrifice plus important, plus parfait, celui de Jésus-Christ lui-même. Troisièmement, l'aspect prophétique de ce sacrifice d'Isaac, qui concerne donc Jésus-Christ. Au verset 8, quand Isaac demande à son père « Mais où est donc l'animal pour le sacrifice ?» Abraham lui répond « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Dieu se pourvoira lui-même. Et c'est pourquoi ce lieu a été appelé Yahvé Jiré. L'Éternel pourvoira. 2000 ans plus tard, en ce même endroit de Morija, Dieu a offert en sacrifice son Fils unique à Golgotha. Donc c'est Dieu lui-même qui a pourvu au sacrifice expiatoire parfait pour le prix de nos péchés. Isaac a été remplacé par le mouton qui annonçait l'agneau de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Jésus qui mourut à la place des coupables, comme Jean nous le dit dans son évangile au premier chapitre, « Voici l'agneau de Dieu, donc Jean-Baptiste, qui ôte le péché du monde. » Comme le mouton a été sacrifié à la place d'Isaac, Jésus est venu mourir pour tous les croyants. Dieu a confirmé la valeur du sacrifice de Jésus en le ressuscitant des morts le troisième jour. Il est donc l'accomplissement parfait du sacrifice d'Abraham. Nous avions vu donc fin juin, dans les chapitres précédents, qu'Abraham vivait toujours sous sa tente, comme un pèlerin, un étranger, un voyageur sur la terre. Et nous avions vu que dans Hébreux et dans 1 Pierre, il est répété aussi que le chrétien est un voyageur, un étranger, un pèlerin qui ne peut pas s'attacher aux biens matériels d'ici-bas, mais qui doit vivre par la foi, levant les yeux et voyant l'accomplissement des promesses que Dieu nous a faites. Abraham, véritable adorateur du vrai Dieu, a manifesté sa foi ici dans ce chapitre de 22 de la Genèse, une foi absolue en Dieu. Et c'est cette foi absolue en Dieu et en la résurrection qui a permis à Dieu de le mettre à l'épreuve comme jamais un homme ne l'a été sur la terre, choisir entre l'obéissance à Dieu et la vie de son Fils unique. Sa foi dans le Dieu de la vie et dans le Dieu de la résurrection lui permit d'offrir à Dieu son Fils unique bien-aimé, car il savait qu'il allait le retrouver par une sorte de résurrection. Mais Dieu, qui épargna à Abraham une douleur énorme, il ne le s'est pas épargné pour lui-même, car Jésus mourut bel et bien sur la croix. Dieu a délivré Isaac sur l'autel, mais il a abandonné Jésus sur la croix. Il l'a abandonné parce que les prophètes disent bien que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal, pour voir le péché des hommes. Et pendant 3 heures de ténèbres, Dieu a abandonné son Fils sur la croix, car Dieu ne peut pas accepter le péché. Or, Paul dit dans Corinthiens qu'à cet instant précis, Jésus était devenu péché, c'est-à-dire l'agneau pour le sacrifice d'expiation des hommes. Donc Dieu a délivré Isaac, mais il a abandonné son Fils unique sur la croix. Dieu a annulé le sacrifice d'Isaac pour le remplacer par celui d'un mouton, parce qu'il n'avait jamais accepté de sacrifice humain de la part des hommes, mais lui seul se le permit en offrant Jésus sur la croix. Dieu seul s'est permis un sacrifice humain parce qu'il s'agissait du sacrifice de son propre Fils, Dieu le Fils. Seule la vie d'un homme parfait sans péché peut être offerte à Dieu pour le prix de nos péchés. Il est bien que nous nous souvenions donc de cette foi d'Abraham, le père des croyants, un pèlerin, voyageur, adorateur de Dieu, qui, dans ce chapitre 22 de la Genèse, nous donne le meilleur exemple de foi, je crois, qu'on puisse trouver dans toute la Bible. Et nous qui nous réclamons du baptême et de la plénitude du Saint-Esprit, il est bon que nous puissions faire au moins autant qu'Abraham, avoir une foi qui surmonte les épreuves, et que nous soyons prêts aussi à nous sacrifier et à donner à Dieu tout ce qu'il demande de notre part pour lui être obéissant en toutes choses, croyant réellement en la résurrection, parce que c'est le trait caractéristique entre les chrétiens et les autres croyants des autres religions, la résurrection des morts. Paul l'a dit, si nous ne sommes pas absolument convaincus de la résurrection, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Abraham, déjà en son temps, 2000 ans avant Jésus-Christ, était fermement convaincu que s'il offrait à Dieu son fils sur l'autel, il retrouverait Isaac par une sorte de résurrection pour que la promesse d'une postérité bénie puisse réellement s'accomplir. Donc dans l'épreuve, dans l'incertitude de l'avenir, bon, c'est ce qui nous concerne à Côte d'Ivoire, dans un pays en guerre qui n'arrive pas à se relever de cette guerre, il est bon de se rappeler que quoi qu'il arrive, Dieu est là, fidèle, et que même s'il nous il permet qu'on nous retire la vie, c'est la résurrection qui nous attend. Abraham en était convaincu. 2000 ans avant Jésus et nous 2000 ans après les récits de la mort et de la résurrection de Jésus, nous devons être totalement convaincus aussi de la résurrection qui nous attend tous, afin que nous recevions cette promesse de la vie éternelle qui est adressée à tout chrétien. Au nom de Jésus. Amen.